Pas d'affolement.
Nous voilà.
Voilà.
Vous êtes bien sur Radio Entre deux Mers 98.4, donc pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, mais je laisse aussi vous dire qui a participé à cette émission.
Nous sommes en présence de Valérie, Joseph, Sylviane, Brigitte, Béatrice, Christelle, Francis et moi-même aussi.
On participait aussi à l'émission Philippe, Guylain, Jean-Louis, Stan et Michael. Notre invité de ce jour est Monsieur Lavraise, palomaire, et c'est-à-dire chasseur de palombes, si je crois bien. Monsieur Lavraise.
Oui, bonjour.
Bonjour. Depuis quand chassez-vous la palombe?
Alors, je chasse la palombe depuis mon adolescence. Voilà, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à chasser, puisque on a le droit de port d'armes et d'utiliser une arme à feu à l'âge de 16 ans, à condition d'avoir le permis. Voilà.
Et vous, depuis quand?
Et généralement, depuis quand chasse-t-on la palombe?
Alors, on chasse la palombe depuis très longtemps. Les premiers écrits qu'on retrouve évoquant cette chasse remontent au XIIIe siècle. Voilà, donc ça fait très très longtemps que la palombe est chassée, notamment dans le sud-ouest, voilà, et au nord de l'Espagne.
D'où vous êtes venue la passion de cette chasse?
La passion de cette chasse m'est venue tout jeune, puisque j'habitais la campagne et que nous n'avions pas trop de distractions à l'époque. L'informatique n'existait pas, il n'y avait pas de jeux vidéo. Voilà, les moyens de transport étaient assez restreints. Au fond de la campagne, il y avait donc peu de distractions, et la chasse et la pêche, ce qui avait trait à la nature, étaient les principales distractions pour les enfants. Et donc mon père chassait, mon grand-père chassait, et donc j'ai été initié par mon père, mon grand-père, à cette activité, dirons-nous, sportive.
C'est génétique un peu.
Pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est une palombe?
Alors, la palombe est un oiseau qui fait partie de la famille des colombidés, donc comme la tourterelle, et la tourterelle turque, tourterelle des bois, voilà, et elle fait partie des pigeons, car en fait, le nom de la palombe est un nom qui est attribué dans le sud-ouest, c'est-à-dire au sud de la Dordogne, nous l'appelons la palombe. Mais son nom scientifique, c'est le pigeon ramier. Et il existe trois sortes de pigeons. Donc il existe le pigeon ramier, qui donc s'appelle comme ça au nord de la Garonne, et s'appelle palombe au sud de la Garonne, de la Dordogne, pardon. Voilà, ensuite, nous avons le pigeon biset. Alors ça, le pigeon biset, c'est le pigeon des villes que vous voyez. Et le pigeon que vous trouvez dans les pigeonniers, dans les fermes, etc. voilà, qui existe également à l'état sauvage, qui niche dans les falaises, dans l'ouest de la France et en Europe. Voilà.
Et est-ce que vous connaissez le pigeon mondain?
Le pigeon mondain?
Oui.
Alors oui, mais après, dans les pigeons, il y a beaucoup de races de pigeons. Voilà, mais les pigeons que l'on recherche là, ça fait partie, votre pigeon là, des pigeons visés. Après, il y a multitude d'espèces de pigeons. Voilà, et le troisième pigeon qu'on voit ici et qui se chasse également, c'est le pigeon colombien. Voilà, donc il s'appelle pigeon colombien au nord de la Dordogne, au sud de la Dordogne, il s'appellera le rouquet. Nous l'appelons le rouquet. Et cet oiseau passe en même temps que les palombes. Voilà. Et souvent, il est au milieu des vols de palombes.
Pouvez-vous nous décrire ce qu'est une palombière?
Alors, une palombière, ben c'est une installation. Voilà, il y a plusieurs sortes de palombières. Il y a principalement deux sortes. Donc, à savoir que les palombières sont, on appelle palombières, toujours pareil, au sud de la Dordogne. Donc, entre la Dordogne et la Garonne, on va trouver essentiellement des palombières que l'on appelle pylônes. C'est des cabanes qui sont construites en haut des arbres. Voilà, et où le poste de chasse donc est en altitude. Voilà, en haut des arbres, avec, comme une installation classique, des appelants, voilà, vivants, etc. Et très souvent, ces chasses se pratiquent posées et le tir au vol. Voilà. Donc, tir au vol qu'on ne retrouvera pas au sud de la Garonne.
À quel endroit peut-on construire une palombière? Faut-il des autorisations spéciales?
Alors, je n'avais pas terminé avec la question précédente, puisqu'il y a une autre sorte de palombière, voilà, qu'on va retrouver essentiellement dans les Landes. Voilà, et là, c'est des palombières qui sont par terre, des constructions qui sont au sol, et qui là, on pratique une chasse au filet, ou pente. Voilà, donc c'est une cabane, une grande cabane. Souvent, il y a tout le confort. Ensuite, vous avez des tunnels qui servent aux chasseurs à se déplacer dans la forêt sans que les oiseaux les voient. Et on va essayer de faire poser ces oiseaux. Et une fois qu'ils sont posés sur les arbres, on va essayer de les faire descendre sur un emplacement bien précis où des filets sont tendus. Et lorsqu'il y a suffisamment d'oiseaux sur le sol, on déclenche ces filets et nous les attrapons vivants. Nous les capturons vivants. Voilà, c'est la chasse au filet. C'est la principale mode de chasse dans les Landes. Voilà. Certains postes font les deux, le filet et le tir au fusil. Mais le tir au vol est interdit.
Est-ce que la palombe est consommable?
Palombe est consommable. Elle est considérée comme gibier et c'est un mets qui est recherché. Voilà. Que les grands cuisiniers cuisinent et dans les Landes, c'est un mets qui est très recherché. Et en général, dans le sud-ouest, les Pyrénées Atlantiques, etc.
La palombe. Un oiseau migrateur, quel est son projet?
Ah oui, alors, il y a trois courants de couloirs de passage pour les palombes. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de palombes. Il y a les palombes qui sont sédentaires, donc on va appeler le pigeon ramier qui est sédentaire. Donc il y en a maintenant beaucoup. En France, la population augmente de ces palombes, mais ces palombes sont sédentaires, elles ne migrent pas. Et les deuxièmes, c'est ce qui nous intéresse pour la chasse, c'est les palombes migratrices. Donc là, il y a trois couloirs essentiels de migration. Donc les grandes migratrices, Alors celles-là, elles arrivent de Russie. C'est ce qu'ils font le plus grand voyage, elles arrivent de l'Oural. Hein. C'est la limite, voilà. C'est, avec les nouvelles techniques, et notamment les balises Argos, etc. Voilà, c'est ce qui arrive de plus loin, qui font le plus grand trajet, elles arrivent de l'Oural. Donc après, elles traversent la Biélorussie, Pologne, République tchèque, Suisse, et elles arrivent chez nous. Ça, c'est le couloir le plus important. Voilà, où va passer la majorité des oiseaux. Ensuite, on a un couloir qui est plus au nord, et qui, où les palombes vont démarrer au nord de l'Allemagne. Nord de l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique, elles vont passer sur le nord de la France pour arriver dans le sud-ouest. Voilà. Et il y a un autre couloir qui est moins important, celui-ci, qui est le couloir méditerranéen. Alors là, c'est des oiseaux qui arrivent d'Ukraine, Hongrie, Slovaquie, Autriche, Suisse également, et nord de l'Italie. Voilà. Et qui arrivent en France, voilà, par la Savoie, là, entre la Savoie et le Jura. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'Europe. Et au niveau de la France, il y a également plusieurs couloirs. Donc on a un axe atlantique, ce sont des oiseaux qui vont arriver par le nord, hein, donc les Ardennes, le nord là, et qui vont rester au nord de la France, voilà, et qui vont se hiverner en Bretagne, dans la région de la Bretagne, voilà, et dans le nord de la France. Ça c'est l'axe Manche-Atlantique. Ensuite il y a un axe atlantique, qui est le plus grand axe de passage. Là, les palombes arrivent sur les régions du Nord, sur le département du Nord, et vont traverser toute la France en ligne droite, hein, pour arriver sur les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, elles passent sur les Landes, sur la Gironde, voilà, et la Dordogne. Voilà. Un troisième axe de passage pour les palombes qui arrivent donc de l'axe méditerranéen, du couloir méditerranéen. Elles vont rentrer en France là sur au niveau du Rhin, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et elles vont traverser également là en ligne droite, là, traverser la Saône Loire, le Puy-de-Dôme, voilà, et elles vont passer par le Lot-et-Garonne et arriver également sur les Pyrénées-Atlantiques. Et puis de ce couloir méditerranéen, il y a une partie de ces oiseaux qui vont emprunter la vallée du Rhône, et qui vont descendre sur les Alpes de Haute-Provence, voilà, et les Alpes maritimes, pour après, quelques-unes vont traverser et vont aller jusqu'en Corse, voilà, et les autres vont bifurquer pour longer toute la chaîne des Pyrénées. Et il va y avoir des oiseaux qui vont passer sur les Pyrénées orientales pour aller en Espagne, d'autres dans les Hautes-Pyrénées, et les autres vont traverser les Pyrénées pour aller en Espagne au niveau des Pyrénées atlantiques.
Merci beaucoup pour cette explication qui nous a fait beaucoup voyager. Nous sommes toujours sur Radio Entre deux Mers 98.4.
Bonjour, c'est Joseph.
Bonjour.
J'ai une question à poser à Brigitte par les inondations qui a eu.
C'est en effet une interview de Brigitte sur les inondations, faite par moi, Valérie.
Bonjour, je suis Valérie, je suis en compagnie de Brigitte qui a vécu différentes inondations et j'aimerais bien qu'elle nous en parle. Brigitte, quelles sont les inondations que vous avez vécues ?
Ben, j'ai déjà vécu les inondations en 1981 quand on a aménagé à Camiran. Et après, on a vu les inondations de maintenant, là. Mais on a failli avoir de l'eau. Ça a été juste. Mais ça fait un drôle d'effet quand tout est inondé, comme la Garonne, tous ces villages.
À quel niveau est montée l'eau à ces époques ?
Sur la Garonne ?
Mais là où vous étiez ?
Oh ben, le Drô était presque chez nous, parce qu'un peu plus loin, un peu plus bas vers chez nous, il y a une dame, elle a été inondée, son garage.
C'est-à-dire sa maison a été inondée ?
Oui, mais le bas, le garage.
À quel niveau est monté l'eau ?
Il va juste au bord de sa porte de garage.
Dernièrement ?
Oui, dernièrement.
Et en 81 ?
Ah ben, elle a monté chez nous aussi. En 81, elle a monté chez nous, mais elle a fait que le bas.
Et quel souvenir ça vous a donné, cette montée des eaux ?
Ah ben, ça fait bizarre parce qu'à force, encore là, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas d'eau. Et là, comme on a fait le bas tout neuf, ça serait dommage que l'eau elle rentre.
Et quels dégâts a causé dans votre région et chez vous cette montée des eaux ?
Ben, y en a qui ont eu des dégâts. L'autre voisine à côté, là, que son garage était mouillé, qu'il y avait de l'eau, et elle avait sa machine à laver, tout ça. Un camion est venu là, hier pour ramasser, pour la rembourser après.
En 81. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la suite des inondations ?
À la suite des inondations, on était compté sinistré, alors le maire nous a donné des affaires et tout.
Et cette année ?
Ben non, on n'a pas pris l'eau, nous. C'est ceux qui ont pris l'eau qui vont être remboursés.
Ah oui, merci. Ouais. Savez-vous à quel niveau est montée les eaux dans la région ?
Dans la Garonne, elle était à 9 mètres, je crois, mais il y a eu de l'eau partout. Pour mesurer, moi, je ne sais pas trop, mais ça a monté.
Oui.
Ça a beaucoup monté partout.
Est-ce que ça fait peur quand ça arrive ?
Ben, c'est émouvant quand même, hein, quand on voit de l'eau. C'est émouvant comme l'eau.
Moi, à Cadillac, ça a bien monté. Il y avait même des gens qui s'arrêtaient pour photographier.
Oui, mais à la Garonne aussi, là, quand j'étais vers Jamila, ben, il y a des gens qui sont venus photographier la Garonne.
Et vous avez photographié la Garonne ?
Non. Non, non.
Est-ce que ça a été un choc de revivre deux fois cette situation ?
Oh ben non, pas tellement, moi, non.
Vous étiez préparée un peu ?
Oui, on est préparée. Mais Joël, il disait, ben, vous allez vraiment être dans la mouille si en bas, il y a de l'eau, parce qu'on a fait ça tout neuf. Ah ben là, après, on ne peut rien faire, il faut tout refaire après.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, comme la maison qu'ils ont refait en bas, c'est des murs en plaqué, là, qu'ils appellent des placos, là.
Est-ce que ça a été fait sur pilotis ?
Non, parce que notre maison, elle est à étage. Elle est à étage, et quand on était en haut, ça allait, mais là qu'on est en bas, faudrait, s'il y aurait eu de l'eau, il aurait fallu soulever les meubles, et puis habiter avec Joël en haut.
Donc c'était juste.
Oui, c'était juste. Hein.
Et je suppose que vous êtes soulagée.
Oh oui, quand même. Oh oui. Mais il y en a vers l'autre côté, en allant sur Morizès, il y en a qui ont été inondés. Hein. Oh oui.
Oui, c'est dommage. Hein.
C'est dommage.
C'est grave, c'est catastrophe climatique.
Oui, c'est vrai. Mais là, hier, quand on était pour venir ici, mercredi, je crois que c'est mercredi, eh ben, on ne pouvait pas passer avant l'ambulance, on a fait le tour. Et pour revenir, on a refait le tour, parce qu'il y avait de l'eau. Sur la Vignague, tout ça, il y avait de l'eau.
D'accord.
Encore des endroits où c'est encore, il y a encore de l'eau.
Oui, les marécages, il n'y a pas de marécages, mais c'est...
Oui.
Les champs ressemblent à des marécages, quoi.
Ah oui, les champs, il y en avait. On disait, on va aller à la pêche, parce que le champ en face de nous, il y avait plein d'eau. Alors on disait, ben, on va aller à la pêche, on va avoir les poissons là-bas.
Je vous remercie, Brigitte.
Merci.
Au revoir.
Au revoir et à bientôt.
À bientôt.
Voilà, au revoir.
Maintenant, je voudrais que vous faire entendre, excusez-moi, plutôt, vous faire entendre Guylain qui nous raconte un fait insolite sur le climat.
Fait insolite du 7 février 2021. Des poussières d'or tombées du ciel. Le phénomène n'est pas exceptionnel. Mais il fait toujours autant d'effet. Des poussières de sable du Sahara, emportées par des vents remontant vers le nord, ont survolé hier la France, teintées de jaune-orangé l'atmosphère sur une bonne partie du sud et de l'est du pays. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont posté hier des photos de différentes régions, de Toulouse à Strasbourg, en passant par Lyon ou Grenoble, montrant des paysages ou monuments emblématiques nimbés de couleur ocre. La trajectoire jaune devrait toucher aujourd'hui l'Italie, la Suisse, une bonne partie de l'Allemagne, l'Autriche ou encore la République tchèque. En octobre 2017, un important épisode de ce type avait atteint la Bretagne, après avoir également survolé le Portugal, alors frappé par des feux de forêt, transportant donc des cendres en plus du sable.
On va vous passer une chanson de Jean Ferrat pour prendre la montagne verte.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, qu'une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, qu'il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Bonjour, nous sommes toujours sur Radio Entre-deux-Mers en compagnie de M. François Labrèze, notre invité de l'émission Pas d'affolement, nous voilà. M. Labrèze, à combien de chasseurs êtes-vous sur votre palombière?
Alors, sur notre poste de chasse, nous sommes 5 chasseurs.
Quel endroit peut-on construire une palombière? Faut-il des autorisations spéciales?
Alors, pour monter une palombière, il faut tout d'abord l'autorisation du détenteur du droit de chasse sur la propriété sur laquelle vous voulez installer votre palombière. Donc, c'est soit le propriétaire du terrain qui est propriétaire du droit de chasse, soit c'est une association de chasse appelée ACCA qui détient le droit de chasse sur ces terrains. Donc, il vous faut cette autorisation. Et ensuite, il y a quelques règles à respecter, c'est que cette installation doit être au minimum à plus de 300 mètres d'une installation déjà existante, pour que vous puissiez monter votre propre installation. Voilà, en gros, les contraintes pour monter une palombière. Et après, il faut beaucoup de patience et de travail.
Que fait-on des palombes chassées ?
Les palombes chassées, bien celles qui sont capturées vivantes, elles servent principalement pour la chasse future, c'est-à-dire que moi, par exemple, nous, sur notre installation, nous chassons au fusil, c'est-à-dire que nous posons les oiseaux et nous tirons au fusil et nous essayons d'en attraper également. Et les oiseaux que nous capturons vivants nous servent d'appelant pour la saison d'après. Donc nous les conservons précieusement pour pouvoir chasser l'année d'après. Et ensuite, les palombes qui sont tuées partent à des amis, etc. Les grosses chasses, certaines sont commercialisées, hein, puisque c'est du gibier, donc nous avons le droit de les commercialiser durant la période de chasse, et c'est les restaurateurs qui les achètent, etc. Voilà, ou des amis, voilà.
Peut-on chasser toute l'année ?
Alors, non, nous ne pouvons pas chasser toute l'année. La chasse à la palombe respecte les dates d'ouverture générale de la chasse, c'est-à-dire du deuxième week-end de septembre au 20 février. Voilà, sachant que la chasse au filet se termine, elle, le 20 novembre. Après, nous n'avons plus le droit de chasser, d'attraper des oiseaux vivants au filet. Nous pouvons juste les chasser au fusil. Voilà. Et il y a certains départements où cette chasse peut être autorisée un peu plus longtemps, dans les départements où cet oiseau est déclaré nuisible. Et donc, il se peut que l'été, aussi au mois d'août, il y ait des demandes par le biais de la préfecture de chasse administrative, si vous voulez, pour réguler les populations de palombes qui causent des dégâts très important au niveau des cultures et au niveau des agriculteurs.
Est-ce que le nombre de palombes évolue au fil des ans ?
Alors, la palombe est un oiseau, effectivement, dont les effectifs progressent bien, voilà, et notamment les palombes sédentaires. La population de palombes sédentaires progresse très bien, et ce qui pose des soucis, car elle fait beaucoup de dégâts dans certains départements et dans certains pays, hein. Par exemple, en Grande-Bretagne, elle cause des dégâts très très importants, hein. Il faut savoir que on peut retrouver dans les plaines chez nous en France des volées de palombes qui peuvent atteindre 10 000 oiseaux. Donc vous imaginez 10 000 oiseaux qui se posent dans le champ d'un agriculteur, en sachant qu'une palombe consomme au minimum 100 grammes de nourriture et qu'elle en fait tomber 3 ou 4 fois plus. Donc c'est des tonnes et des tonnes de récoltes qui s'envolent, et des billets et des euros qui s'envolent. Donc là, c'est entre 500 et 1000 euros qui s'envolent chaque fois que l'agriculteur voit ce vol d'oiseau arriver sur son champ. Donc vous comprenez, il n'est pas très satisfait.
Est-ce qu'il existe l'élevage de palombes ?
Non, il n'existe pas d'élevage de palombes.
Qu'est-ce qu'on a à pour ?
Alors, il y a deux appellations, effectivement, à pour et à pour. Alors, l'appelant, c'est soit un oiseau vivant, dont on se sert pour attirer les oiseaux sauvages et pour les faire poser, soit c'est une forme qui rappelle la forme de l'oiseau, mais qui est en plastique ou animée par un mouvement mécanique. Voilà. Et ça sert à attirer l'oiseau. Et la peau, c'est un instrument qui sert à imiter le son que produit ou le chant de l'oiseau que vous souhaitez chasser. Donc là, en l'occurrence, la palombe.
Merci beaucoup. Brigitte, vous avez peut-être des nouvelles de Guylain.
Oui, je vais vous dire, suite de Guylain, nous allons savoir comment s'est passée son opération.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Deux semaines après mon opération qui s'appelle septoplastie, je reviens vers vous. Je respire. Enfin. mais les soins ne sont pas terminés. Au bout de 48 heures, les infirmiers ont pratiqué l'ablation des deux mèches que j'avais dans chaque narine. Ça n'a pas été sans douleur, mais aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir subi cette intervention. Au jour d'aujourd'hui, à raison de 3 fois par jour, je suis soumis à des lavages de nez avec du sel marin et différents sprays nasaux. Je ne prends plus d'antidouleur. Petit à petit, mon nez reprend ses droits, c'est-à-dire il occupe ses fonctions naturelles, chose qui me manquait jusqu'à présent. Malheureusement, dépourvu de liquidité financière, je n'ai pas réussi à me procurer des ampoules d'huiles essentielles, destinées à être utilisées dans le cadre d'inhalation ou de fumigation quotidienne. Je suis interdit de sport. Je poursuis un régime sans épices. Mon corps, mon cerveau sont oxygénés. D'habitude, manquant d'oxygène fourni par les voies nasales, souvent sans m'en rendre compte, j'ai la bouche qui reste ouverte. Ceci est sujet au ridicule. J'en étais même complexé lorsque l'on me faisait remarquer que j'avais la bouche ouverte sans raison. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Si vous avez écouté la dernière émission, je vous avais posé cette question. Et pourquoi respire-t-on ? On peut répondre pour vivre. D'ailleurs, à l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche », on se devrait d'ajouter « et d'air pur ». À moins d'être des poissons dans l'eau, le corps a besoin d'oxygène.
Merci Guylain, on espère bien te revoir et on espère que tu vas très bien, que tu es satisfait de ton nouveau nom. Voilà. Bon, mais c'est toujours c'est Valérie. Je voulais vous faire partager un texte sur la Bastide parce que dans les informations culturelles actuellement il n'y a pas grand chose et ça nous déçoit tous. Donc voilà, c'est un texte sur la Bastide.
La Bastide d'où ?
De Cadillac.
Info culturelle sur Cadillac. Je suis Valérie, je vous présente une info culturelle originale sur Cadillac. En ces jours de pandémie, il n'y a pas vraiment d'informations culturelles. Malgré tout, je vais essayer de vous décrire Cadillac, ville bastide. La bastide de Cadillac fut fondée en 1280 par Jean de Crailly, représentant du roi d'Angleterre. Elle est une ville neuve du Moyen Âge. Son rôle est de marquer un territoire politique entre la France et l'Angleterre, de fixer des populations pour développer économiquement une région. Depuis cette époque, Cadillac conserve son enceinte fortifiée, les portes de la mer et de l'horloge, sa place et quelques maisons en arcade. À la fin du XVIe siècle, Cadillac est choisi par le duc d'Épernon, héritier par son épouse de la prestigieuse famille des Foix Candal. Cet homme d'armes fait œuvre de bâtisseur. Il entreprend en 1599 la reconstruction de l'ancien château pour en faire une demeure quasi royale. Les dépendances s'étendent au nord de la Bastide, les écuries et manèges, potagers et vergers, orangeries et parcs. Cadillac est toujours riche de ses commerces, foires et marchés et ses vins, de son patrimoine exceptionnel. Je remercie l'Office du tourisme de m'avoir donné ces renseignements, ce petit aperçu de l'histoire de Cadillac, et à suivre dans une prochaine rubrique info culturelle de l'émission de Pas d'affolement, nous voilà, sur Radio Entre-deux-Mers 98.4. Merci à vous et à bientôt.
Comme chaque émission, nous allons écouter le poème de Philippe et la fable de la Fontaine lue par Guylain.
Voici mon poème, Marlène. Je t'aime, ma Marlène, toi solide comme un chêne. Tu es l'amour de ma vie, et quand je me couche dans mon lit, je pense à toi et rien qu'à toi. Nous ne vivons pas sous le même toit, notre amour n'en est que plus solide, et sans toi ce serait un vide. Je t'aimerai toujours, et pour faire ta cour, je te dédie ce poème personnel, et de toutes les femmes, tu es la plus belle.
Pas d'affolement, nous voilà.
Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi ? Ce n'est pas l'affaire ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque près d'être atteint. Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps du reste pour brouter, pour dormir et pour écouter. D'où vient le vent, il laisse la tortue. Aller son train de sénateur, elle part, elle s'évertue. Elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tiens, la gageure a peu de gloire. Crois qu'il y va de son honneur. De partir tard, il broute, il se repose. Il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien !» lui cria-t-elle. « Avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison ?»
Et maintenant, nous allons retrouver deux rappeurs, Stan et Michael, qui vont nous interpréter l'horizon.
Alors les gars, je me présente, Stan, le roi de la panne.
Moi c'est Mickey, je fais tout. Allez les doudous, je rattrape tous, je parle de tous, je suis pas de tous. On fait la touche, cousin, je me présente par CDT.
Le morceau s'appelle l'horizon. Au fond, vous trouverez le don des rappeurs qui font de l'art de rue.
1-1, cousin, démontre-toi, si t'as la force, mes cités, mes grandes soeurs, tes unités, mes claquettes.
Pas de cité, moi c'est parfait, Paris, j'ai délimité par l'humidité. Mais l'humidité m'a chauffé de la supériorité. J'ai dû disputer tous les airs maudites, maudites, elle m'a maudit. Pourquoi faut-il payer ? On a payé.
À des soirées, ma fille qui m'écarne au ciel. Mon cœur, esprit dans ton cœur, de sauter, de sauter, décider, m'ajouter, crier pied. Contipier, continuer, contarer, les tarés de la rue, les NB, décriver, assumer, calories, célori, trésorerie, 80, 4 riz, zitroisé. Dans ma rue, j'ai travé, mes codes santé, j't'ai payé, mais j'ai raffé.
Moi, j'ai la santé, cocaïne, cocaïne, la coco, c'est pas vrai, tout ça fait péter des plombs au plafond. On est tous soudés, reliés à tous nos potés. On les a tripotés et ensuite on l'a chauffé.
Disais fois, cousin, 3 fois des tâches. Mais qu'est-ce que tu fais? La vie, c'est 4 fois, t'en dis. Quand t'as la marre, tu fais 3. Quand t'as la marre, fais 4, 5, 17, 6, 8, 19. Courageuse, courageuse, la coucheuse. Mets ton réveil, coule un peu, si t'as lève.
Tiens-toi bien, tiens-toi bien, écoutez ce son, c'était pas bon, mais personne à fond, tous à fond, tous à fond, tous à fond, ouais, 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 on est tous à fond, encore tous à fond, on skie au plafond, construisons, 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 en bas de fond, plateau fond, plateau fond.
Problème plus, moi je vis dans ma luge, quand je luge, c'est tuble. Les fois j'en ai marre quand ça me brûle. Oh Dieu, c'est cadeau, les enfants courent après, des gailleurs, des trophées, des soifés, coup d'herbier, tout dans pied, coup de pied, original, original, J-8-7, ma J-8-7, pour chuter, l'enfant duc et sans faire dans l'affaire, deux arabes, des arrêts, dégracés, dégrincés, collumés, collués, consarrés, au projet, mon frère. À travailler, c'était insister, à crier, pour des équipes, des sakis, des sakis, des sakis, procéder, procéder, un défait, enfant de rue, en deux francs de rue, carrossi, carrossi, tarossé, 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 il classeur, trouve terre dans la cour.
C'est classé, avec mes potes tous parfaits pour nous renier à la raison qu'il faut me dire. C'est pour prévenir tout ce nœud devenir, devenir poli, soldat à la city.
Moi ce que je veux, c'est de la paix, on en sirène, on la laisse non pareil, de santé, corrupté, l'enfant de rue, carré de rue.
Monsieur Labrève, qu'est-ce que l'oiseau bleu et le mâle bleu?
Eh bien, l'oiseau bleu, c'est tout simplement le surnom que l'on donne à la palombe, puisque je pense que c'est dû à son plumage qui a des reflets bleutés. Voilà. Et le mâle bleu, eh bien, c'est la fièvre qui prend tous les chasseurs au mois d'octobre, et plus que les chasseurs, leurs amis, leurs familles, etc. Et un petit peu toute la population du sud-ouest de la France lorsque nous voyons arriver les premiers vols de palombes.
C'est une frénésie?
Pardon?
C'est une frénésie?
J'ai compris la question, excusez-moi.
C'est une frénésie?
C'est une frénésie, oui, effectivement. Les chasseurs attendent ce moment-là toute l'année et préparent leur palombière, etc., durant des mois pour justement voir ce premier vol de la saison. Voilà. Et ça agit aussi sur l'économie régionale, puisque maintenant un peu moins, mais auparavant, il y a 30 ou 40 ans, l'économie de ces régions se mettait en veille durant tout le mois d'octobre et le mois de novembre. Voilà, maintenant c'est juillet-août, les vacances, et c'est là où l'économie tourne au ralenti. Dans le sud-ouest, c'était le mois d'octobre et le début novembre où l'économie était tournée vraiment au ralenti.
Est-il vrai que la palombière, on mange bien?
Alors, la palombière, oui, c'est avant tout une méthode de chasse, mais c'est un lieu de convivialité où les chasseurs aiment bien faire découvrir leur mode de chasse et leur passion, et c'est un lieu où ils vont en profiter pour inviter tous les amis, la famille, etc. C'est un lieu où, effectivement, on cuisine et où l'on mange très bien. Et où éventuellement on boit un petit peu, mais de façon raisonnée.
Merci Monsieur Labrève de nous avoir mis l'eau à la bouche. Nous allons rester sur la nourriture avec Didier, à 4/4 aux agrumes.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Didier. Chers auditeurs, bonjour. Je vous présente le gâteau du mois, le 4/4 aux agrumes. Pour cela, il vous faut pour 6 personnes une orange, un citron, 150 g de sucre en poudre, 160 g de beurre, 150 g de farine, un sachet de levure, 3 œufs. Préchauffez le four thermostat à 180 degrés centigrades. Lavez les oranges et les citrons, puis essuyez-les. Prélevez les zestes des agrumes à l'aide d'un couteau économe et détaillez-les en fins bâtonnets. Faites fondre 150 g de beurre doucement dans une petite casserole. Dans un saladier, mélangez en crème le beurre fondu et le sucre. Incorporez les œufs entiers en battant la pâte au frais pour l'aérer. Ajoutez les zestes en bâtonnets, la farine et la levure. Beurrez un moule à cake et versez-y la préparation. Faites cuire 45 minutes au four. Durant la cuisson, surveillez le dessus du gâteau et recouvrez-le d'une feuille d'aluminium s'il vernit trop vite. Laissez refroidir quelques minutes le 4/4 hors du four avant de le démouler sur une grille à pâtisserie. Notre conseil: vous pouvez décorer le 4/4 avec des zestes d'orange et de citron confit. Merci de votre attention et bon appétit.
Merci.
Et maintenant, nous attendons tous un moment très, très bien écouté par nos téléspectateurs. C'est le top 14 présenté par Rossine.
Voilà, je vous donne le résultat de top 14. Racing a battu Castre 23-20. Agen a perdu contre Montpellier 29-39. Brive, abattu, Bègue, Bordeaux, 25, 23. La Rochelle, abattu, Saint-Francis, 16 à 30. Lyon, abattu, Toulouse, 31 à 23. Pau a perdu contre Toulon, 29 à 33. Clermont a battu Bayonne, 73 à 30. Voilà le classement. Premier Racing, deuxième Toulouse, troisième Clermont, quatrième. Troisième Toulouse, quatrième Clermont, cinquième Bergue-Bordeaux, sixième Toulon, septième Lyon, huitième Saint-Francis, neuvième Brive, dixième Cache, onzième Montpellier, deuxième Pau, treizième Bayonne, quatorzième Agen.
Vous êtes toujours sur Radio Entre deux Mers, 98.4, dans l'émission Palafonement nous voilà. Nous sommes heureux de ne pas avoir avec nous aujourd'hui Jean-Louis, qui est un passionné de moto, qui chaque fois fait une rubrique sur la moto, justement. Et pour le remercier de son investissement dans la radio et du fait qu'on espère qu'il reviendra vite, nous allons écouter L'homme à la moto, dédicace.
Semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait « Maman je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia, dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.
C'est moi aussi, c'est moi. Nous trouverons Philippe avec la page sportive.
Ma chronique sportive concerne l'année 1970. Côté actualité, toutes les voitures mises pour la première fois en circulation doivent être munies de ceintures de sécurité aux places avant. Mort du comédien Bourvil, Charles de Gaulle meurt à Colombey-les-Deux-Églises. Côté sportif, en football, le Brésil remporte sa troisième Coupe du Monde en battant en finale l'Italie 4-1. En cyclisme, Eddy Merckx réalise le doublé Giro Tour de France. En ski, le Suisse Bernard Russi est sacré champion du monde de descente à Val Gardena. En golf, l'Américain Jack Nicklaus remporte le célèbre tournoi de golf du British Open. En rugby, le 15 de France remporte le tournoi des 5 nations à égalité avec le Pays de Galles. En boxe, le boxeur américain Joe Frazier met Johnny Lewis KO au 5e round et devient le roi incontesté des poids lourds. L'Allemand Gerd Müller est sacré ballon d'or. Enfin, pour finir, notons la naissance du tennisman André Agassi.
Monsieur Labrèze, est-ce que vous avez une anecdote à me raconter par hasard?
Ah, oh, j'en aurais tout plein, mais là, il ne m'en vient pas à l'esprit.
Une burlesque. Hein? Une burlesque.
Non, ben, je suis désolé, je sais pas.
Bon,
j'ai pas ça.
Oui, quel dommage. Alors, monsieur Labrèze, nous avons tous choisi quelque chose, en particulier un peu poussé par Francis, on l'avoue, un sketch de la Palombière.
Une fois, j'ai été invité dans une palombière à passer une journée. Je vous raconte comment ça s'est passé. 5 heures le matin. Je me lève pour partir à la palombière. Quelle sale journée qui se prépare, j'ai pas pu refuser l'invitation. 6 heures. Les autres chasseurs me prennent en bas de chez moi avec leur voiture. Ils sont habillés comme les paras de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Il y a des fusils plein la voiture. J'ai même cru remarquer une mitraillette. J'ai peur. Oh. 6h30. Nous rentrons dans la forêt. Il a plu depuis 8 jours. C'est un vrai bourbier. 6h31, j'aurais pas dû mettre mes sandales de corde. 6h32, ni mon pantalon blanc cassé, celui avec le petit nœud rose au-dessus de la braguette et les revers en cachemire. 6h33, je m'entrave dans une fougère. 6h35, pensez à porter mon pantalon au pressing. 6h45, nous rentrons enfin dans la palombière. 7h, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif. J'ai envie d'uriner, mais j'ose pas demander où c'est. 7h02, les autres posent sur la table un grand pot de café. J'en bois un plein verre. 7h02 et 20 secondes. Je tousse. C'était pas du café, c'était du calvados. <rire> 7h04. Je bois un second grand verre de calvados. 7h10. Troisième tournée de calvados. 7h12. Trois mièzes vournées de Cadalvos. 7h14, 4 IPM bournées de Black Vatos. 7h20, je n'ai plus froid, plus faim, j'ai toujours envie de pisser, mais par contre, j'ai plus soif. 7h23, je bois le reste de la bouteille, ça y est, j'ai plus envie de pisser. 7h24, pensez à porter aussi mon slip au pressing. 12h04, on me réveille pour l'apéritif. 12h06, je pense à Catherine. Je bois un pastis 51. 12h07, 12h08, 12h09, 12h11, 12h12, je bois 5 pastis 51. Je me demande pourquoi il n'y en avait pas à 12h10. Midi 30, on commence à manger. Foie gras, andouillette, huître, salmi, canard, gigot, fromage, gâteau basque, café, pousse-toi là que je m'y mette. 13h43, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif, je n'ai plus envie d'uriner. Par contre, j'ai de nouveau très froid. 13h45, un idiot propose d'ouvrir une bouteille de Sauterne. 13h47, je pense à ceux qui sont bien tranquilles chez eux. Nelson Mandela, Grégory Villemin. 14h, je m'endors la tête dans le reste des flageolets. 17h, je me réveille, la nuit tombe. 17h34, on me ramène chez moi, je fonce directement au cabinet. 17h35, je restitue la totalité de la journée dans la cuvette qui n'en demandait pas tant. 17h50, je me couche. 17h55, ça tourne. Je me demande si j'ai pas gardé un morceau de gigot dans le fond. 17h63. Je sais plus où j'en suis, ou alors c'est ma montre qui déconne. 17h84. Ça doit être ma montre. C'est sûrement ma montre qui déconne. 25h32. Je suis enfin dans le néant. Voilà, alors maintenant, vous comprenez pourquoi je suis anti-chasse. Un jour, un ami m'a dit... Pour être chasseur, il faut avoir la foi. Moi, je crois plutôt qu'il faut avoir le foie.
Est-ce que vous connaissez cette parodie?
Oui, bien sûr, tous les chasseurs la connaissent, mais surtout les chasseurs à la palombe. Mais c'est une parodie. Voilà. C'est pas parce qu'on vit bien à la palombière que l'on... que les chasseurs sont tous des alcooliques. Ce sont peut-être des buveurs un petit peu excessifs, mais pas plus que ça.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons au mois prochain. Au revoir et au mois prochain. Pour une nouvelle émission, vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio en podcast.
Au revoir.
Merci de m'avoir répondre à une question. On va m'assurer de bienvenue.
Merci, monsieur
Lavrin.
Merci à vous.
Pas d'affolement. Voilà.
Pas seulement,
nous voilà.